Je m'appelle Patrice Legal, je suis chercheur au CNRS à l'IRFE, à Marseille. L'IRFE, c'est l'Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre.
Moi, je m'appelle Ricardo Lima et j'étais chercheur au CNRS jusqu'à il y a peu, au Centre de physique théorique. Les problèmes que nous traitons au Centre de physique théorique sont essentiellement de la modélisation mathématique.
C'est quoi le chaos ?
Vous voulez rajouter peut-être, ça sera peut-être plus facile de commencer comme ça. C'est de dire qu'on s'est rencontrés il y a 15 ou 20 ans. Comme disait Ricardo, donc il est plutôt mathématicien. Et moi, je suis expérimentateur. Et ce qui nous a fait nous rencontrer par le chaos, par les sciences du non-linéaire, c'était justement ce besoin de rapprochement, de deux manières d'aborder le même problème, qui était un aspect qui était théorique, qui était formel, avec des équations, avec des lois qui pouvaient être prospectives. Et puis mes expériences, que je fais toujours d'ailleurs, essentiellement sur la mécanique des fluides, avec donc des installations qu'on pourra voir dans notre laboratoire, avec des systèmes qui peuvent être mis en rotation, avec des systèmes qui peuvent émettre des ondes. Ces ondes peuvent se mélanger, peuvent faire des choses très bizarres qu'on va pouvoir discuter au cours de cet entretien et qui vont permettre d'explorer un petit peu le chaos.
Je pense que la question des définitions, c'est une question récurrente ne traduit pas, je pense, la démarche historique finalement que nous avons eue. Enfin, historique, je dis historique parce que ça fait 20 ans maintenant, parce que c'est une construction. Et donc, je pense que plus qu'une définition, qui d'ailleurs, sur le chaos, a donné lieu à des discussions sans fin de savoir laquelle était la meilleure que d'autres. Je pense que le plus intéressant pour nous, c'était une réflexion et une expérimentation sur les mécanismes, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qui faisait que, dans certaines situations, on observait un certain type de comportement et dans d'autres, non. Il y en avait du chaos, il n'y en avait pas du chaos partout, et quand il y en avait, ça pouvait se présenter a priori, en première vue, de façon très différente.
Alors, quand il y en a du chaos, ça ressemble à quoi ?
Alors, on va prendre une expérience. Supposons qu'on prenne un pendule, une petite masse suspendue au bout d'un fil. On va pousser ce pendule pour le déplacer de sa position d'équilibre. Et on va s'apercevoir que ce pendule va osciller d'une manière périodique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle pendule, plutôt qu'on appelle les pendules pendules, parce qu'on peut compter le temps en comptant le nombre de périodes. Et puis on va poursuivre cette expérience en ajoutant un petit aimant sur ce pendule et trois autres aimants posés sur la table. Donc se superposent au poids de ce pendule des forces magnétiques qui vont être dirigées dans des sens différents suivant les aimants qu'on a posés sur la table. Et on va refaire l'expérience.
Eh bien, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que tout d'un coup, eh bien, la trajectoire, c'est-à-dire l'orbite, la façon comme le pendule va osciller dans l'espace, on va voir qu'elle devient comme folle et qu'on n'arrive plus, même si on veut et avec toute l'attention qu'on peut y porter, prévoir de façon simple, strictement, ce qui va se passer. C'était d'ailleurs une des belles expériences de ma vie, quand des lycéens venaient s'asseoir sur mon bureau pendant une semaine pour faire un stage, ces stages de lycéens, c'était de mettre une pendule comme ça devant leurs yeux et un cahier avec un crayon. Et puis je leur demandais tout simplement d'essayer d'écrire, de décrire par écrit ce qu'ils observaient. Et c'était presque impossible. C'était une tâche presque impossible. Je le savais, mais c'était intéressant de voir leur tête chaotique, elle aussi.
Le chaos, c'est ce qui est imprévisible.
Alors c'est tout à fait ça. Donc en reprenant cet exemple de pendule avec ce lycéen, donc le premier lycéen va faire une première expérience. Alors on va l'aider un petit peu, on va lui dire tu vas lancer le pendule ou laisser le pendule partir à peu près de ce point-ci avec une vitesse que tu essayes de contrôler. Donc il va enregistrer une première trajectoire, donc le pendule va partir, va osciller, et puis on va passer au deuxième étudiant. Donc le deuxième étudiant va s'asseoir à la table, va se mettre dans des conditions presque les mêmes que le premier, et pourtant la trajectoire, au bout de une ou deux oscillations, va pouvoir être complètement différente. Donc là on touche du doigt l'ingrédient essentiel du chaos, qui est la sensibilité aux conditions initiales. Donc, autrement dit, il faudrait une précision infinie ou infiniment bonne pour pouvoir prédire en un temps donné où sera ce pendule, comment sera sa trajectoire.
On commence à voir à peu près ce qu'est le chaos. Et on commence aussi à voir ce qu'il n'est pas. On peut par exemple dire que le chaos, ça n'est pas du hasard, même s'il est imprévisible.
Alors, en effet, il ne faut pas confondre ce chaos, qu'on appelle d'ailleurs déterministe, parce que les équations qui régissent le mouvement de ce pendule sont des équations complètement déterministes, hein, ce qui veut dire que théoriquement, on peut prédire les trajectoires. C'est simplement une augmentation qui va être exponentielle, donc de plus en plus grande, de la différence entre deux trajectoires. Donc elle s'écarte d'une manière exponentielle. Et ce chaos déterministe est absolument différent, et c'est essentiel, les mouvements aléatoires qui seraient dus à des perturbations extérieures, par exemple. Hein. Imaginons que la table sur laquelle est posée l'expérience vibre d'une manière aléatoire. En effet, la trajectoire pourrait peut-être prendre des allures de trajectoire chaotique, mais si on en faisait une analyse, alors reprenons par exemple le pendule avec sans aimant, hein, le pendule qui devrait avoir une trajectoire périodique, on verrait quand même se superposer sur cette trajectoire périodique des mouvements qui seraient aléatoires a priori, mais qui seraient absolument pas du chaos. Absolument pas du chaos, et qu'on pourrait séparer d'ailleurs de la trajectoire périodique et en faire une analyse statistique, et ça c'est relativement connu et classique.
Le chaos, ça n'est pas de l'aléa. On pourrait imaginer que, par contre, c'est de la complexité, que c'est quelque chose qui apparaît dans un système complexe. Or, apparemment, et avec cette machine à chaos que vous me décrivez là, ce simple pendule, le chaos, il peut aussi apparaître dans une situation, au fond, très simple.
C'est vrai que c'est peut-être la réalisation conceptuelle des années 70, de découvrir qu'il n'y avait pas besoin d'un système complexe, après encore un problème de définition sur lequel les chapelles se battent depuis longtemps, mais disons très compliqué, celui du pendule dont a parlé Patrice Suffit, pour voir ce type de comportement. Maintenant, la subtilité, c'est que si vous observez une expérience dans laquelle vous n'avez droit, par les faits d'observation, à une seule orbite, par exemple la Lune, vous ne pouvez pas lui demander de revenir en arrière et de partir d'un peu à côté. Alors là, évidemment, c'est très difficile de déterminer sur une seule trajectoire, une seule expérience unique, quelle est la part qui vient de l'intrinsèque et quelle est la part qui vient de l'extrinsèque. D'autant plus que dans la modélisation, il y a toujours une partie qui est intérieure et une partie qu'on ne peut pas mettre dans le modèle.
Que Ricardo parlait de la Lune à l'instant et de sa trajectoire autour de la Terre. Et donc, en effet, tant qu'on essaye d'intégrer les trajectoires des corps célestes quand ils ne sont que deux, on sait le faire. On obtient les lois de Kepler, qui sont très connues, et on sait parfaitement déterminer les trajectoires des corps célestes, soit des ellipses, soit des hyperboles. Par contre, il suffit d'avoir un troisième corps en interaction pour qu'à ce moment-là, les équations du mouvement de ces corps ne se laissent plus intégrer. Et c'était Henri Poincaré qui, en étudiant ce problème aux trois corps, avait réussi à pressentir déjà cette difficulté qui allait se présenter donc aux mathématiciens et aux physiciens de comprendre ces trajectoires qui n'étaient plus de cinq trajectoires périodiques. Donc on peut dire en fait que Henri Poincaré était un petit peu un précurseur de ce qu'on a appelé, à partir des années 60-70, les systèmes dynamiques. Et donc ces systèmes dynamiques vont montrer qu'un système complexe n'est pas obligatoirement un système compliqué. C'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure. Et je dis souvent cette phrase à mes étudiants, la complexité, ce n'est pas une complication. La complexité, ça peut être trois petites équations, mais qui ont juste les ingrédients nécessaires pour fabriquer ce chaos. Alors si on revient 10 ans avant les années 70, dans les années 60, il y a un monsieur qui était un météorologue qui était au MIT. Il s'est posé la question suivante, combien faudrait-il de stations météo sur Terre pour que je puisse intégrer les équations des fluides et pouvoir prédire le temps qui va faire à un endroit dans un mois ou dans 15 jours.
Qui était ce monsieur ?
Alors c'est Edward Lorenz qui s'est intéressé à ce problème. Donc c'était en 63, il me semble, qu'il a publié cet article, qui était un article assez fondateur dans la théorie du chaos. Alors. Et donc Lorenz écrit les équations, les simplifie au maximum. Et il va garder trois de ces modes. On appelle ça des modes. Et donc ces modes correspondent, je crois qu'il y en a un pour la température, il y en a deux pour la vitesse. Et il écrit ces équations, on s'aperçoit que c'est des équations donc, où les variables dépendent du temps, vont évoluer dans le temps, mais en plus vont être connectées l'une à l'autre par des termes d'interaction. Et c'est là qu'il y a quelque chose où en fait les scientifiques prennent connaissance de ce phénomène, c'est cette interaction entre les modes sont non linéaires. Et ça c'est complètement essentiel. Il faut aussi savoir, donc si on fait une comparaison, que les systèmes linéaires, les systèmes dynamiques linéaires sont parfaitement intégrables. Donc ceux-là ne pourront pas faire de chaos. Donc on arrive à cette notion de physique non linéaire, de science du non linéaire. Et c'est à partir de ce moment-là que toutes les disciplines ont été envahies de ces notions, puisque la non linéarité, c'est ce qui fait que les choses ne sont plus proportionnelles à la contrainte à laquelle elles sont soumises.
C'est dans les années 1960-1970, une grande étape donc dans le travail autour du chaos, et puis aussi peut-être dans les domaines de modélisation ou de représentation du chaos, on voit aussi apparaître un étrange attracteur, l'attracteur étrange.
Oui, la réalisation de cet phénomène géométrique qui était que dans cet espace où on représente justement les mouvements dans certaines conditions, et il faut toujours souligner peut-être cet aspect restrictif, et c'est l'étude des conditions précises sur lesquelles ça peut apparaître qui était essentielle et qui était les découvertes venaient de là. Eh bien, dans cet espace, les trajectoires du mouvement, les mouvements peuvent avoir tendance, dans certaines conditions, à se concentrer sur une petite partie, une espèce de nuage à l'intérieur de cet espace, qui, une fois que l'orbite s'est approchée, détermine complètement la dynamique. Mais la détermine d'une façon, encore une fois, très subtile, c'est-à-dire qui peut, avec un petit glissement à gauche ou à droite de l'endroit où elle est, partir sur une partie complètement différente de l'espace des phases et donc avoir un comportement de visu qui peut être très différent. Et je pense que ça, c'était la grande conquête de ces années de recherche et le lien avec le caractère non linéaire, effectivement, qui fait que ces orbites-là, elles peuvent exploser l'une par rapport à l'autre très rapidement.
Non-linéarité et puis ces attracteurs étranges, cette façon de commencer à regarder, à voir, à représenter le chaos, ça c'est dans les années 70 et puis dans les années 80, une figure qui je crois est devenue tellement populaire que peut-être aujourd'hui elle ennuie un petit peu la communauté scientifique, celle de Benoît Mandelbrot, un mathématicien et auquel on associe en général cette idée de chaos et de théorie du chaos, Patrice Le Gall.
Alors, on parlait justement de ces figures géométriques là, sur lesquelles se dessinent les attracteurs. Alors, avant de parler peut-être de Mandelbrot et des dimensions fractales, c'est bien de cela qu'il s'agit, je voudrais juste faire le pont entre la découverte de Lorentz et puis ensuite toutes les applications qui ont eu lieu et grâce à l'avènement de l'informatique aussi, il faudra bien le préciser. Et c'était en 1971 un fameux papier qui s'appelle « On the Nature of Turbulence » qui a été écrit par un chercheur français qui s'appelle David Ruel et puis un collègue anglais qui s'appelle Floris Takens et qui a donné toute la justification mathématique à l'existence d'attracteurs étranges. Donc si je reviens un petit peu au début de notre conversation, on a vu qu'il y avait des trajectoires qui étaient ces trajectoires périodiques. Donc c'est des trajectoires qui s'enroulent sur des cercles. On va imaginer qu'on a une feuille de papier et puis on va dessiner un cercle et la trajectoire va se promener dessus et ça va donner l'origine du mouvement périodique. On peut imaginer ensuite qu'il y a une deuxième fréquence, une deuxième période qui arrive dans le système. Et là, la trajectoire va se bobiner sur un tore. Et en fait, on peut prendre l'image d'une chambre à air. Vous prenez un stylo et vous voyez que vous allez dessiner une trajectoire sur cette chambre à air. Et vous allez faire des petits tours, puis des grands tours. Et vous allez enrouler comme ça votre trajectoire sur ce tore. Ceci est encore un tore qui va être stable dans l'espace des phases. Donc l'espace des phases, c'est cet espace qui permet de décrire les différentes positions de la trajectoire, les différentes caractéristiques physiques ensuite du système que l'on étudie. Ruel et Takens ont alors montré qu'on pouvait prolonger cette image donc, du tore T2, donc, qui était cette chambre à air, à un tore T3, donc à une dimension supplémentaire, et que ce tore T3 était instable. Donc les perturbations vont pouvoir faire dévier les trajectoires en dehors de ce tore T3 et pourtant rester confinées dans cet espace des phases. Donc les trajectoires ne vont pas partir à l'infini, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître au loin, etc. C'est quelque chose qui va rester avec une trajectoire chaotique dans un espace fini d'espace des phases et ils ont donné cette définition ou cette notion d'attracteur étrange. Donc comme on parle aujourd'hui donc de l'attracteur étrange de Lorentz, par exemple. Donc dans les années 70 sont arrivés les ordinateurs et donc aux quatre coins du monde, les chercheurs en physique et en mathématiques se sont presque amusés. Il y avait vraiment un amusement dans la communauté à ce moment-là. Hein. On était dans les années 70, à la fin des années 60, juste après 68 en plus. Donc il y avait une certaine désobéissance aussi, sans doute, qui était dans l'air pour faire des nouvelles choses, une nouvelle physique, et on s'apercevait que des petits systèmes dynamiques, enfin petits, grands par leur capacité, petits dans, formellement, dans la manière dont ils s'écrivaient, pouvaient donner des choses qui pouvaient être géniales, et donc on s'est amusé sur les ordinateurs à reproduire ces comportements chaotiques. Donc on parle de l'attracteur de Lorentz, qui est pour la météo, il y a l'attracteur de Hénon, et j'en passe.
Et puis, les fractales.
Alors, les fractales. Alors, en effet, donc, le grand nom attaché à la dimension fractale, parce qu'il s'agit bien de cela, c'est Benoît Mandelbrot. Alors, revenons un petit peu sur ce qu'est une dimension. Alors, c'est peut-être difficile de faire passer ce message par les ondes plutôt que par le visuel, mais on voit très bien que si on a une ligne ou même un fil, même s'il n'est pas droit, on a une seule dimension. Si on imagine qu'on parcourt ce fil, on va pouvoir bouger que dans une direction, dans un sens ou bien dans l'autre. Maintenant, si vous avez une feuille de papier, la dimension est de 2. On voit bien qu'on a une dimension où dans un sens, X et Y, on a tous fait des courbes sur nos cahiers de lycéens. Et puis ensuite, on passe à la dimension 3, X, Y, Z, quand on ajoute une altitude. Et donc cette notion de dimension se généralise en mathématiques. D'ailleurs, il y a plusieurs, là aussi il y a des chapelles avec quelle est la bonne dimension qui va représenter les bonnes choses, mais il y a plusieurs manières de définir les dimensions. Mais tout s'accorde à dire qu'il existe des dimensions qui ne seront pas des nombres entiers. Donc on sait rajouter 1, 2, 3, 4, 5 variables pour faire des dimensions supérieures. Et ce qui a été nouveau, c'était de se rendre compte qu'il y avait aussi des objets qui, elles, avaient des dimensions de 2,7 ou de 1,8 ou de 2,03. Et donc ces dimensions étaient donc des dimensions fractales. Et c'est Benoît Mandelbrot donc, qui a appelé ces objets comme ça. Je crois qu'un des exemples, c'est « je veux mesurer la dimension des côtes de la Bretagne ». Je pense à ma Bretagne, ma chère Bretagne natale. Et vous voyez que les côtes de la Bretagne sont très découpées. Et qu'en fait, si on prend une échelle de mesure du kilomètre, on va pouvoir faire une certaine mesure. Et puis on diminue notre étalon de mesure pour passer à une chaîne d'arpenteurs de 100 mètres. Et on va s'apercevoir que la longueur de la côte est différente. Et puis, plus on va diminuer la règle qui nous sert à faire cette mesure, plus la dimension va grandir. Et donc ça, c'est parce que justement, la dimension d'une côte rocheuse est une dimension fractale.
Ces fameuses dimensions et courbes ou surfaces fractales sont apparues dans les systèmes dynamiques, donc dans le chaos, à deux niveaux, on peut dire. Le premier, c'est justement pour mesurer pour avoir une mesure de la quantité de l'espace qui occupe ces fameux attracteurs étranges, parce qu'ils étaient intermédiaires entre l'espace tout entier et puis un plan, par exemple, à l'intérieur. Donc il y avait quelque chose d'intermédiaire, et justement, à cause de l'énorme diversité des orbites qui peuvent siéger dans cet espace, donc c'était déjà comme le lieu où le mouvement allait se faire asymptotiquement, c'est-à-dire quand le temps avance. Et puis, un autre endroit assez curieux, finalement, c'est que vous voyez que si vous avez un attracteur dans un espace, c'est-à-dire un endroit où les orbites vont terminer, suivant l'endroit dont vous partez, donc ces fameuses conditions initiales, vous pouvez aller tomber dans une partie ou une autre. Et donc, si tel est le cas, ça veut dire qu'il y a une frontière, il y aura bien une frontière entre les points qui vont tomber dans une partie de l'attracteur et les points qui vont tomber sur une autre. Or, cette frontière, elle-même, elle a, dans beaucoup de cas de cette dynamique chaotique, aussi un caractère fractal, c'est-à-dire que c'est un peu comme les côtes de Bretagne dont parlait Patrice, c'est-à-dire que suivant la dimension de la règle qu'on utilise, on va trouver des longueurs qui vont être différentes dans cette frontière. Et donc la combinaison de ces deux aspects qui, bon, au fond sont liés, mais qui sont quand même assez différents quand on observe le système après pratiquement, a fait que les fractales, en plus par la beauté de certains d'entre eux du point de vue esthétique, ont eu toute cette grande phase de publicité.
On arrive donc maintenant dans le cœur même du vrai problème, du chaos. Tout à l'heure, jusqu'à présent, on n'a fait qu'une description de ce qu'était qu'une trajectoire chaotique. Mais à partir des années 80, à partir de l'article de Ruel et Takens, qui montrait que les trajectoires périodiques pouvaient ne plus exister et se promenaient sur ces attracteurs étranges, on s'est posé la question, mais que se passe-t-il sur ce Thor? Dans quelles conditions est-ce que le Thor pouvait perdre sa stabilité? Pourquoi cette trajectoire allait-elle devenir chaotique? Et là, il y a plusieurs manières de déstabiliser ce Thor, et c'est là que les mathématiciens ont beaucoup progressé dans les années 80, pour nous expliquer, justement, suivant des indices qu'on appelle des valeurs propres, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, comment ces indices pouvaient nous permettre d'avoir une transition vers le chaos, soit par quasi-périodicité, c'est justement ce Thor qui explose, soit par intermittence, et cette route, elle est typiquement française, puisqu'elle a aussi le nom de Pomo-Manville, donc la route de transition au chaos par intermittence. Et puis, il y a également la cascade de Feigenbaum, Feigenbaum était un chercheur de Californie, donc qui a donné ce nom. Donc, une cascade de bifurcation qui va à l'infini, où les fréquences se multiplient à chaque bifurcation par deux. Donc, il y a eu tout un panel de théoriciens qui se sont intéressés à cette définition des transitions vers le chaos. Donc, c'est des choses qui sont très sérieuses, rigoureuses, hein, je veux vraiment préciser ça. Et donc, ils ont donné donc, aux expérimentateurs un petit peu de travail en leur demandant est-ce qu'il est possible d'aller vérifier ces scénarios.
Bonjour, je m'appelle Peter Isinski. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Provence en mathématiques.
À propos du chaos, on peut se demander si la perception de cette notion de chaos est la même dans toutes les sciences. On vient d'avoir quelques éléments de définition à ce propos en physique et... Alors, en mathématiques, quelle serait la définition du chaos?
Alors, le chaos est au départ lié à des phénomènes de système dynamique. C'est-à-dire qu'on regarde des espaces qui sont en mouvement, et à partir de là, le chaos se dessine quand c'est très difficile de prévoir l'avenir à partir de données présentes. Donc c'est très proche finalement du modèle physique, mais c'est formalisé en termes mathématiques.
En physique, le chaos apparaîtrait dans des phénomènes dits non linéaires, par opposition aux phénomènes linéaires. Et est-ce que c'est la même chose?
On peut rencontrer en mathématiques des systèmes dynamiques qu'on devrait appeler linéaires et pour lesquels le système sera dit chaotique.
À propos de modélisation de phénomènes chaotiques, il y a un modèle plutôt simple qui peut nous permettre de comprendre comment ça fonctionne. C'est celui de la table de billard.
Donc la situation de laquelle on va partir, c'est une table de billard carré. Et on met une boule sur la table et on tire dans une direction avec la queue du billard. Donc à chaque fois que la boule tape la paroi, elle se réfléchit de telle sorte que l'angle d'incidence est le même que l'angle de sortie. Et on suppose qu'il n'y a pas de frottement sur la table, du coup la balle ne s'arrête jamais. Et on regarde la trajectoire faite par cette balle. Qu'est-ce qu'on peut observer comme phénomène et qui rend ce système dynamique, qui est la trajectoire du billard chaotique? Ce sont les trois phénomènes suivants. D'une part, si je place la boule n'importe où et que je me fixe une direction d'abord pour taper, quitte à changer un tout petit peu la position de la boule et un tout petit peu la direction dans laquelle je vais taper, je peux m'assurer d'avoir une trajectoire périodique. C'est-à-dire qu'elle va partir, elle va heurter les parois, et puis au bout d'un moment, elle va revenir exactement à la même position initiale, et elle va repartir dans la même direction que si je venais de la retaper. Le second phénomène, c'est ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales. Donc ça signifie que si je regarde une manière de taper dans ma boule à n'importe où, quitte à, pareil, déplacer un tout petit peu ma boule ou à changer un tout petit peu de direction, je suis sûr que les trajectoires vont se séparer au bout d'un certain temps. C'est-à-dire qu'elles vont jamais rester parallèles indéfiniment. Et la troisième propriété qu'on aime bien vérifier quand on veut invoquer le chaos, c'est de dire qu'on va pouvoir trouver une trajectoire du billard qui va passer à tous les endroits et dans toutes les directions sur la table.
En mathématiques, le chaos, la théorie du chaos, c'était le grand domaine des années 80-90. Est-ce que c'est aujourd'hui un domaine un peu obsolète et où il y aurait d'autres domaines, je dirais, de pointe? Ou bien est-ce que c'est toujours quelque chose qui est pertinent, intéressant et sur lequel de nombreux chercheurs travaillent?
Je pense que ça reste un sujet très intéressant qui suscite l'attention de beaucoup de mathématiciens. Maintenant, c'est vrai que de toute façon, la recherche évolue beaucoup, donc il y a des nouveaux sujets qui sont plus en vogue actuellement, mais je crois que ça reste quand même encore d'actualité.
À travers de ces découvertes, de ce travail, jusque dans les années 80, la modélisation, une analyse maintenant très, très fine de ces phénomènes chaotiques, on a de moins en moins l'impression que le chaos c'est du désordre, et au contraire, est-ce qu'on voit apparaître quelque chose qui pourrait être une sorte d'ordre sous-jacent, Ricardo?
Oui, et en fait, c'est vraiment, on va dire, une conséquence déjà de ce qu'on disait tout à l'heure. Si je prends comme exemple ce fameux attracteur étrange, il ne faut pas l'imaginer comme une espèce de poussière informe qui serait dans cet espace et finalement où la trajectoire, enfin le mouvement irait un peu là où il veut. C'est une structure vraiment très organisée, au moins dans certaines directions, qui fait que le mouvement, une fois qu'il est enchaîné à cette structure, il ne peut plus la quitter. Et donc, en étudiant les caractéristiques, par exemple, dont parlait Patrice tout à l'heure, de ces dimensions fractales, on a aussi immédiatement une information très précise sur le mouvement. Maintenant, il faut imaginer que cette information ne permet pas de prévoir exactement à chaque instant où la trajectoire va se trouver si on ne connaît pas exactement d'où elle est partie. Ça, c'est une vérité. Donc, on pourrait dire que on perd un peu de l'information si on veut savoir tout, mais on gagne beaucoup si on a une perspective un peu plus large dans laquelle il y a une partie importante de l'information qui est quand même retenue. Et ça, c'est très important, d'autant plus que tous ces systèmes-là ont une caractéristique très importante, c'est que ces dimensions, par exemple, de cet attracteur, ou les caractéristiques après temporelles de l'évolution, vont dépendre de ce qu'on appelle dans notre jargon, et je vais essayer de m'expliquer, les paramètres du système. Mais le paramètre du système, c'est très simple, c'est que le même système, par exemple celui de Lorentz et celui de l'atmosphère, son comportement va dépendre tout bêtement de quelque chose d'extérieur, comme par exemple la différence de température entre ce qui est en bas et ce qui est en haut. Et si vous arrivez, par exemple, ce qui est possible dans une expérience, dans un laboratoire, à imposer au système la différence de ces températures, par exemple en chauffant de façon contrôlée la plaque qui est en bas et la plaque qui est en haut, vous verrez justement que votre attracteur, il va se déformer petit à petit avec cette condition imposée au système, et donc ça va vous permettre, en fonction de ce paramètre, par exemple la différence de température, de prévoir des caractéristiques qui vont être différentes et qui vont dépendre de cette imposition des paramètres extérieurs.
Prévoir des caractéristiques, prévoir quelque part quelque chose qui relève de l'imprévisible, c'est un petit peu à ça qu'a abouti cette recherche autour du chaos, avec notamment plusieurs applications techniques, technologiques. La première, on l'a déjà évoqué, c'est la météorologie.
Absolument. Donc, bien que d'énormes progrès sont encore nécessaires pour comprendre vraiment le système complexe qu'est la météo, et tout à l'heure, quand je disais que Lorentz avait simplifié au maximum en ne gardant que trois paramètres, trois dimensions
dans trois modes pour faire la description de d'un système météorologique, évidemment, c'était une simplification à l'extrême. Donc, on sait bien que pour un système météorologique, il faut un plus grand nombre de paramètres pour pouvoir décrire une situation. Mais ce qu'il faut peut-être retenir aussi, c'est la dimension épistémologique. Dans les années 70-80, il y a vraiment eu une prise de conscience chez les scientifiques qu'on pouvait faire des systèmes complexes avec des trajectoires, ces trajectoires chaotiques, difficiles à manipuler, difficiles à analyser, avec des systèmes qui étaient relativement simples, déterministes. Ouais. Et je crois que ce qui s'est passé dans les années 70-80 a vraiment été un progrès épistémologique. Il y a vraiment eu une prise de conscience des gens. Oui, les systèmes déterministes, même simples, peuvent faire des choses qui peuvent être très, très complexes, très complexes.
Une des conséquences de ce changement, finalement, de perspective, qui est peut-être le plus important, un des plus importants quand on réfléchit aux applications, est lié à cette caractéristique de ces systèmes dont le mouvement ou les comportements vont dépendre d'un paramètre, des paramètres. Et les paramètres sont, finalement, des mesures extérieures au système qu'on peut faire. Les surfaces encore qui séparent les valeurs des paramètres qui ne sont pas chaotiques de celles qui sont chaotiques ont une géométrie un peu compliquée. Et donc, il faut s'attendre, dans beaucoup de cas, et je pense par exemple à des problèmes d'écologie, à que des changements des petites conditions extérieures, je ne sais pas, par exemple la différence de température dont on parlait tout à l'heure, peuvent avoir dans certaines conditions, pas toujours parce que sinon on serait en catastrophe permanente, mais dans certaines conditions qu'il s'agit justement de prévoir, avoir des conséquences énormes et complètement inattendues quelquefois sur le comportement après de la dynamique du système. C'est-à-dire qu'avec cette prémisse de non-linéarité, certains comportements peuvent, comme on dit en langage populaire, s'emballer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des conditions de fonctionnement, par exemple, on parle, c'est le cas qui a été très discuté de Tchernobyl, à un certain moment, juste un epsilon, un tout petit changement dans ces paramètres peut faire emballer le système. Donc je pense que cette idée des petits changements dans les conditions de travail d'un système qui peuvent impliquer des changements énormes dans le comportement de sa dynamique est un apport fondamental des études de la dynamique non linéaire et du chaos en particulier.
Autrement dit, un système n'est pas chaotique par nature, mais il peut, si je comprends bien ce que vous dites, le devenir.
Absolument. Alors, j'arrive donc au deuxième point, pour repréciser les idées de Ricardo, la sensibilité maintenant aux paramètres. Quand vous êtes en dessous, mettons, ou en deçà d'une valeur critique, vous allez avoir un certain type de solution. C'est ce qui est arrivé à Tchernobyl. Une centrale nucléaire, c'est un objet qui est instable, c'est un objet qui a tendance à produire de plus en plus d'énergie, puisqu'on produit des neutrons qui eux-mêmes, c'est la notion de réaction en chaîne, mais nos ingénieurs, en effet, contrôlent ces centrales nucléaires en mettant des barres pour pouvoir stabiliser le réacteur, des barres en plomb, il me semble. Et donc, on ralentit ces neutrons qui sont fabriqués et on ralentit la réaction en chaîne, on la contrôle. Et puis, en effet, s'il y a un petit paramètre qui est changé, eh bien, le système peut bifurquer dans un autre régime, et c'est ce qui est arrivé à Tchernobyl, où le système a bifurqué vers un emballement de la centrale et plus moyen de la ramener dans un état stable.
Le chaos et la danse, une manière peut-être pour conclure de voir que la science et l'art ne sont pas toujours deux domaines opposés. En l'occurrence, Ricardo, tu as travaillé sur un regard sur la danse contemporaine que tu pratiques toi-même et avec, bien sûr, un prisme, une manière de la regarder qui la tienne et au travers notamment de ce regard sur le chaos. Alors peut-être quelques mots là-dessus.
Tout est parti du fait que je suis en relation avec des chercheurs qui modélisent et mesurent le mouvement humain, en particulier dans la danse, avec des senseurs optiques. Et donc après, il s'agit d'analyser, de regarder comment ces mouvements-là peuvent être traduits dans une certaine structure mathématique. Et la surprise, en tout cas pour moi, c'est que c'est possible. C'est-à-dire qu'à condition de trouver un espace suffisamment intéressant, comme Poincaré l'avait trouvé, pour représenter ce mouvement, eh bien, la façon finalement de danser, par exemple la différence entre un professionnel et un amateur, comme moi, apparaît immédiatement. Autrement dit, alors que l'amateur décrit une trajectoire qui est plutôt du type qu'on disait au début aléatoire, c'est-à-dire probabiliste avec des erreurs dans tous les sens, le professionnel concentre son mouvement sur un vrai attracteur dans ce système, et vous le voyez parce que vous pouvez le représenter, et il peut être étrange, il peut être chaotique, certes, mais c'est quand même un attracteur. C'est pas comme moi quand je danse qui apparemment ne lève pas les pieds de la même façon.
Danser et puis recherche physique ou mathématique sur le chaos, peut-être aussi l'occasion d'évoquer un autre projet, celui mené par un groupe qu'on connaît bien, la Friche Label de Mai, qui est le groupe Dune. Peut-être juste deux mots sur la collaboration que tu as eue avec Ricardo Lima.
C'est plutôt Patrice.
Patrice, pardon. Oui.
Donc, en effet, donc j'ai travaillé avec le groupe Dune il y a quelques années déjà. Pour une raison, la raison suivante, c'est que Bernard et Madeleine étaient donc chorégraphes et avaient pour projet, ont eu pour projet de faire danser des danseurs sur de la lumière ou de la musique qui n'était pas aléatoire et qui était chaotique. Et donc, pour pouvoir fabriquer cette musique chaotique, c'est ça qui était original, c'est qu'il ne désirait pas prendre un simple ordinateur et intégrer le système de Lorenz dont on a parlé, qui aurait été simple. Ils ont voulu se servir d'une machine qui sait fabriquer du chaos, qui est une fontaine chaotique.
Bernard Misraki, du groupe Dune. Alors en fait, il y a quelques années, on était encore très, nous sommes toujours très influencés par la danse et on cherchait, en fait, on était encore danseurs et chorégraphes, et dans un livre, en fait, sur la théorie du chaos, j'avais trouvé des phrases qui illustraient parfaitement la danse à laquelle on aspirait. Et ces phrases parlaient du chaos, de la description de formes chaotiques. Et elle disait par exemple des formes floues et détaillées, structurées et imprévisibles. Et toutes ces contradictions, pour nous, nous enchantaient. Enfin, on avait l'ambition de trouver des formes de mouvement qui se rapprochaient de cette description. Et ce livre parlait d'une expérience. Donc l'expérience était une roue à eau avec des seaux percés. Donc autour de cette roue à eau et de ces seaux percés, il y avait trois paramètres qui permettaient d'accéder à un mouvement imprévisible, chaotique, qui étaient les paramètres d'inclinaison de la roue, de taux de fuite et de débit, évidemment, de taux de remplissage des seaux. Et à partir de ces trois petits paramètres, en fait, on arrivait, à partir du moment où on arrivait à les maîtriser à peu près, on arrivait à avoir un fonctionnement imprévisible de la roue, c'est-à-dire qu'elle se mettait à tourner dans un sens, après elle se mettait à balancer, elle partait dans l'autre sens trois tours, et puis elle revenait deux tours, et puis elle recommençait, ainsi de suite à l'infini, sans qu'on soit capable de prédire ce qui allait advenir de son comportement. Voilà. Et donc, comme on cherchait déjà à inscrire des éléments aléatoires dans, aussi bien dans la danse, mais aussi on commençait à faire des installations, donc dans les installations qu'on réalisait, on a eu envie de réaliser cette expérience. Et pour cela, on a eu, enfin, le hasard fait bien les choses, hein, j'avais juste à côté de chez moi un voisin qui était mathématicien, faisait de la physique théorique, Michel Vitot, donc il était très intéressé par le chaos quand je lui en ai parlé, et il m'a dit, mais tu sais, il y a 500 mètres d'ici, il y a un mec formidable qui s'appelle Patrice Le Gall, qui travaille à l'IRF, donc l'Institut des phénomènes hors équilibre, et qui a travaillé au MIT avec Malkus, qui a mis au point dans sa cave cette expérience. Et donc comme ça, on a rencontré 2-3 chercheurs, il y avait aussi Ricardo Lima, qui nous ont aidés à réfléchir un peu, qui ont orienté notre manière de penser le comportement de cette roue. Et ça a été assez déterminant pour nous, au-delà du geste artistique qu'on voulait faire. Cette expérience a été assez déterminante parce que, évidemment, une fois que les mathématiciens vous donnent les équations, que les théoriciens nous donnent quelques principes de base, et que nous, on se retrouve avec des tournevis, des fers à souder, et puis une roue enfin constituée et un peu d'eau avec des trous percés, ben on se rend compte que c'est extrêmement difficile d'arriver à ce que moi j'appelais un équilibre à l'envers. C'est-à-dire que finalement, on cherchait un résultat. Et la combinaison de ces trois paramètres, de ces seuls trois paramètres, procurait une infinité de possibilités qui, hélas, dont la plupart, ne menaient pas au chaos.
Une machine à chaos qui s'insérait dans quelle installation ?
C'est une installation en fait qu'on avait utilisée d'abord dans Vous êtes ici pour illustrer un peu l'idée de mouvement dans la ville, en fait, de faire le rapprochement entre cette incertitude du mouvement et l'évolution du paysage urbain. Et puis après, en fait, on avait vraiment utilisé le fonctionnement de la roue, c'est-à-dire ces périodes, ces comportements, pour piloter tout un ensemble de séquences multimédia dans une installation qui s'appelait l'espace turbulent, justement.
Est-ce que vous avez discuté ensemble, est-ce que vous avez échangé sur ces rapports entre la danse et plus généralement l'art contemporain et puis le chaos, ce que les scientifiques en comprennent ?
Finalement, les scientifiques, bien autant que les artistes, sinon plus, ont l'esprit assez libre et une faculté à vagabonder assez étonnante. Donc c'est un immense plaisir de discuter avec eux. Et les discussions n'étaient pas forcément dirigées sur un seul sujet, mais c'était aussi l'occasion de voir comment les uns et les autres ont porté un regard sur ces éléments qui les concernaient directement dans leurs recherches et dont ils étaient surpris qu'on s'intéresse aussi de notre point de vue à ces choses-là, quoi. Donc c'est difficile de dire de quelle manière on a parlé, mais disons qu'on s'est rapprochés. Voilà, on s'est rapprochés en échangeant un petit peu les points de vue, à la limite le champ de vision. C'est-à-dire que finalement, nous, on n'est pas du tout scientifiques. Quand on commence à entendre parler du chaos, pour nous, c'est de la poésie. Mais en même temps, pour eux qui sont scientifiques, le travail qu'ils font n'est pas éloigné de la poésie. Donc on peut s'entendre aussi sur ces choses-là. En même temps, les scientifiques disent aussi que quand vous mettez de l'ordre quelque part, forcément vous créez un désordre à côté. Et du coup, nous, les rapports justement entre l'ordre et le désordre, mais l'ordre et le désordre, on peut dire, c'est aussi ce qui est défini et ce qui l'est moins, ce qui est précis, ce qui demeure imprécis. C'est quelque chose qui nous passionne toujours.
Écoutiez Chaos Physique, une exploration de la théorie du chaos vue par 2 physiciens. Patrice Le Gall, chercheur à l'IRFE, Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre, et Ricardo Lima, chercheur au CNRS. un mathématicien, Peter Essinski, enseignant, chercheur à l'Université de Provence, et un artiste, Bernard Misraki, co-directeur avec Madeleine Chiche du groupe Dune. À suivre, Chaos cosmique, après la physique, l'astrophysique chaote, en compagnie de Franck Malige et Julie Patrice. D'ici là, un tour sur le site http://dreamandsciencefactory.jimdo.com ou bien encore sur radiogrenouille.com pour réécouter cette émission.